Le recollection de Laurent Voulzy sur Radio Scarpe 104.10. Il est 15h10 et nous sommes toujours à Obi en direct pour célébrer les 40 ans de la naissance de Radio Cacquin. Et on va parler de la Pologne et de l'importance de se souvenir également de l'apport des Polonais dans l'histoire de cette région. J'ai le plaisir de recevoir Patrice Dufossé.
Bonjour.
C'est bien de se revoir. Voilà, on s'est vu il y a déjà pas mal de temps, on s'est beaucoup parlé au téléphone ces derniers temps, à diverses occasions. Et puis, eh bien, on vous retrouve, vous êtes le responsable des éditions Nord Avril.
C'est ça.
En quelques mots, cette maison d'édition, qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Elle s'ouvre sur la région et en proposant les différentes une mise en lumière des identités multiples que recèle la région, quoi. Donc la région est multiple et donc l'idée c'est de mettre en avant toutes ces particularités pour aller peu à peu vers un échange, quoi. C'est plutôt c'est l'idée de l'échange et de débattre et de s'enrichir, quoi. Voilà.
Et puis avec nous également Jacques Kmiesiak, j'ai bien dit.
Très bien.
C'est terrible hein, parce que malgré toutes les années, on a toujours peur d'écorcher les noms polonais. Faut prendre de son élan et puis y aller sans trop réfléchir. C'est comme ça qu'il faut.
Moi, je m'entraîne depuis un certain nombre d'années, donc.
Ouais. Bon. Voilà. Bien en face de votre micro, peut-être un peu plus près, s'il vous plaît, Jacques. Alors, vous êtes journaliste, historien spécialisé de l'immigration polonaise et auteur. Cette année, des tas de manifestations organisées dans l'ensemble de la région pour fêter les 100 ans de l'accord entre la région et la Pologne. C'était important de se souvenir. Ces commémorations, elles ont un sens particulier.
C'est important de se souvenir. Tout dépend de la façon dont se souvenir, dont on se souvient. Je conteste un peu le terme de fêter ou célébrer. On ne célèbre pas une défaite, je pense. On ne fête pas une défaite. Ça a une connotation. Fêter, célébrer, c'est une connotation éminemment positive.
Donc on va être commémoré.
On commémore pas non plus, parce que commémorer, c'est mettre en mémoire. Enfin, on peut commémorer, oui, on peut marquer ce centenaire qui a été vécu comme une honte, comme une humiliation par les élites polonaises qui ont été... La Pologne recouvre son indépendance en novembre 1918, après 123 ans d'occupation. Et au moment où elle recouvre son indépendance, les élites polonaises, la bourgeoisie et les grands propriétaires terriens polonais, à la tête de l'État polonais, sont incapables d'assurer la subsistance à leurs ressortissants. Ils sont contraints à l'exil. C'est une contrainte, l'exil. Comme aujourd'hui, les migrants, c'est une contrainte. Et on est dans la même logique. Alors comment on peut célébrer quelque chose qui est, je pense, une défaite politique ? Parce que les élites polonaises, à l'époque, n'ont pas mené à terme la réforme agraire qui aurait permis la répartition des terres. La Pologne est restée un pays aux mains des grands propriétaires fonciers durant tout l'entre-deux-guerres. Et c'est un pays qui va aussi sombrer tout doucement dans l'autoritarisme, également dans le fascisme à partir des années 1935 avec le régime des colonels. La Pologne, en 1934, est le premier pays à signer un traité d'amitié avec l'Allemagne hitlérienne. Voilà ce qu'est la Pologne dans l'entre-deux-guerres et voilà ce que la Pologne a fait subir à des milliers de ses ressortissants.
Voilà, des gens contraints à l'exil et qui choisissent tous les pays d'Europe ou prioritairement la France.
L'idée, c'était peut-être de partir aux États-Unis. C'est un courant... La tradition migratoire en Pologne date du 19e siècle. Donc l'idée, c'est de partir aux États-Unis. Mais les États-Unis, à travers des lois de quotas, 1921-1924, ferment leurs frontières. Donc l'Allemagne est en conflit avec la Pologne, car elle va être en guerre avec la Pologne pour la Poznanie, pour la Silésie. Donc elle refuse de recevoir des ressortissants polonais. Donc il ne reste plus beaucoup d'alternatives pour ces pauvres Polonais. Là. Et donc ils viennent soit en France, soit en Belgique, ou dans une moindre mesure aux Pays-Bas ou au Luxembourg.
Cette immigration, elle se déroule sur quelle période ?
Elle commence en 1919, donc c'est cette convention qui est signée le 3 septembre 1919 entre la France et la Pologne, et elle va s'étendre jusqu'en 1949-1950, parce qu'après la guerre, les Polonais se voient offrir la possibilité de repartir en Pologne pour reconstruire le pays qui a été ravagé par 6 années de guerre et les combats de la libération, et certains feront le choix du retour en Pologne Voilà. Et donc, cette histoire se termine en 1949-1950.
Voilà. Et là, on est dans le monde bipolaire où ça devient de plus en plus compliqué de passer de l'Est à l'Ouest et vice-versa.
Ça devient compliqué, oui, parce que effectivement, la France, le camp impérialiste, le camp occidental, rêve d'une troisième guerre mondiale pour éradiquer l'Union soviétique de la carte. Hein. C'est ce qu'ils ont toujours cherché depuis. Je rappelle quand même qu'en 1920-1921, il y a une vingtaine de pays qui occupent l'Union soviétique. Ils tentent de tuer la révolution dans l'œuf. Et cette perspective, cette logique, va être menée en terme en 1989-1990 avec la dislocation de l'Union soviétique. Donc, il va perdre la guerre froide, ça va être une défaite quelque part. Donc au bout de 60-70 ans, ils arriveront à leur fin.
Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement? C'était, on se doute pour les populations, quelque chose de compliqué, c'est un déracinement. Les conditions de l'accueil, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment ces travailleurs arrivent et dans quelles conditions ils sont reçus? Et sont-ils seulement reçus en France ou admis?
Ils sont. La plupart des travailleurs exerceront dans les mines de charbon. Il faut savoir qu'à peu près sur 10 actifs, 8 travaillent dans les mines de charbon, 1 dans l'industrie métallurgique ou textile, et 1, surtout des femmes, 1 actif sur 10 travaille dans les campagnes. Donc la plupart, quand même, travailleront dans le bassin minier. Donc ils seront accueillis par les houillères. Mmh. Hein, qui vont les isoler du reste de la population. C'est les houillères qui vont faire venir des prêtres. C'est les houillères qui vont favoriser la création des associations. Monsieur Gavrel parlait de la dynamique associative. Donc dans leur logique paternaliste, il s'agit pour les houillères d'isoler cette main-d'œuvre de la population ouvrière française.
Dans quel but?
Parce qu'on estime qu'on craint que cette main-d'œuvre polonaise soit contaminée, c'est des termes qui vont être employés, par le syndicalisme d'essence marxisante. Que ce soit plutôt socialisant à la CGT ou plutôt communisant à la CGT unitaire. Donc pour comment dire, isoler cette main-d'œuvre, on fait venir des prêtres. L'Église polonaise n'est pas la plus comment dire, progressiste du monde. Hein. C'est une des églises les plus réactionnaires au monde encore aujourd'hui. Et donc on fait venir des prêtres, on les rétribue. Les prêtres sont des salariés des houillères. On leur crée des chapelles. Voilà. Et eux, ils éduquent leurs ouailles dans le culte de Dieu et de la patrie. Mais c'est vraiment une approche très, très réactionnaire quand même.
Pour avoir les ouvriers les plus dociles possibles.
Oui, bah oui, bien sûr, pour avoir les ouvriers les plus dociles possibles. Et d'ailleurs, les ouvriers moins dociles, il faut savoir que certains militants polonais avaient fait la révolution russe ou la révolution spartakiste en Allemagne ou la révolution russe de 1905. Mmh. Donc c'était des militants chevronnés. Et ceux-là vont être à la tête soit de la CGT unitaire, soit du Parti communiste. Et dès les premières années, on va les expulser. Pourtant, c'était pas hors la loi. Enfin, le fait de faire grève pouvait valoir à un mineur polonais l'expulsion.
Comment ça se passe au travail, cette fois-ci à la mine, au fond, avec les autres mineurs?
Ben, c'est là où va se faire le début d'intégration, va se faire là, à travers les contacts avec les mineurs français. Mais ils ne sont pas très, très bien vus au départ, parce que beaucoup parlent allemand. Alors certains viennent de Pologne, hein, des campagnes pauvres de la Pologne, mais une partie vient aussi du bassin de la Ruhr, de Westphalie. Et donc ils parlent allemand. Et certains ont même, quand vous consultez les archives, par exemple les archives du Nord, on voit que certains, donc les archives de la police politique, hein, des renseignements généraux, on voit que certains Français se plaignent de reconnaître dans les corons des gens qui occupaient la France 2 ou 3 ans auparavant et qui reviennent en tant que mineurs maintenant. Ils servaient l'armée de Guillaume II et ils reviennent en 1920, 22, 23 comme mineurs. Donc ils parlent allemand. Donc voilà, il y a des espèces de xénophobie anti-allemande qui va surgir.
Voilà. Mais au fond, le lien se tisse malgré tout entre les mineurs.
Il va se tisser progressivement.
Lentement.
Lentement. Et c'est surtout les grèves, la première grande grève de masse du Front populaire qui va rapprocher ces deux communautés. Parce que les militants qui osent adhérer au Parti communiste ou à la CGT unitaire sont très rares. Enfin, ils peuvent se compter sur les doigts d'une main. D'ailleurs, celui le plus connu qui habitait le Douaisis était Thomas Olchanski. Alors la République française, dans sa grande mansuétude, en 1922, elle va lui accorder la nationalité française, parce qu'il avait combattu au sein des Alliés. 1922, on lui accorde la nationalité française. Une fois qu'il a la nationalité française, lui qui est un militant de CGT de la première heure, il va militer au grand jour. craignait plus l'expulsion puisqu'il était français. Alors évidemment, au bout de 10 ans, les autorités françaises vont s'en inquiéter et on va user contre lui une mesure extrêmement rare dont on a parlé il y a 5 ou 6 ans du temps de François Hollande, c'est la dénaturalisation. On va lui enlever la nationalité française dans le seul but de l'expulser. Alors il ne va pas partir en Pologne parce que la Pologne est un régime fascisant à l'époque et donc il risquait peut-être sa vie. Donc il va trouver l'asile politique en Union soviétique. Il ne reviendra en Pologne qu'en 1945, quand la Pologne va tourner le dos à son passé semi-féodal.
Quand on rentre en guerre cette fois-ci contre l'Allemagne fasciste, c'est suite finalement à l'attaque par l'Allemagne de la Pologne qui engendre la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne.
Oui, il y avait des liens entre la France et la Pologne. Le souci, c'est que l'Union soviétique travaillait depuis des années à créer ce qu'ils appellent le cordon sanitaire, enfin la sécurité collective, pour empêcher justement Hitler de prendre les devants, et que la France et la Grande-Bretagne ont un peu joué botté en touche, et la Pologne a toujours refusé dans l'idée d'une alliance que les troupes de l'armée rouge viennent à son secours. Parce que la Pologne était un régime fasciste et elle craignait peut-être que les troupes de l'armée rouge occupent le pays. Donc de ce fait-là, ça a conduit l'Union soviétique à signer un traité avec l'Allemagne en 1939, ce qui a permis à l'Union soviétique finalement de renforcer son potentiel industriel et de finalement gagner la guerre. Je voudrais quand même rappeler que c'est quand même l'Union soviétique qui a supporté le poids essentiel de la Seconde Guerre mondiale, qui est à peu près 26 millions de soviétiques qui sont morts pour la libération de l'Europe.
Ouais, on se souvient davantage, hélas, du pacte de non-agression à l'époque, en oubliant après le tribut de ce pays.
Oui, on oublie Munich, on oublie la Tchécoslovaquie, on oublie que la France et la Grande-Bretagne ont laissé les mains libres à Hitler, et donc je pense que l'Union soviétique et Staline n'avaient pas d'autre choix que de signer ce traité, qui n'était pas un pacte, hein, qui était un traité de non-agression. Pacte a une connotation un peu, a été repris ici par la propagande occidentale, ça a une connotation éminemment péjorative. Enfin, pacte, ça veut pactiser, hein, c'est une alliance. Là, c'était un traité simplement de non-agression, et ça a permis, s'il n'y avait pas eu ce traité de non-agression que Henry Kissinger, ancien ministre des Affaires étrangères des États-Unis, a qualifié de coup diplomatique du siècle. Donc on ne pouvait pas le taxer de sympathie pour les communistes. Hein. Donc il est important aujourd'hui quand même de rappeler l'intérêt de ce traité germano-soviétique qui a permis finalement à l'Union soviétique de libérer l'Europe du nazisme.
Est-ce que la lutte contre le régime fasciste va rapprocher Polonais et mineurs dans le Nord, ou est-ce que c'est un ennemi commun, on se fait des retours ou
ce qu'ils partagent, c'est la dureté des conditions de vie. Déjà dans les corons qui est imposée par l'occupation. Il y aura la grande grève patriotique de mai-juin 1941. Alors là, évidemment, 90% des mineurs sont en grève. Ensuite, il y aura deux réseaux de résistance principaux chez les Polonais, un réseau proche du gouvernement en exil à Londres et un réseau proche des mouvements moscovites et communistes de Pologne, enfin des communistes de France, hein, les FTP, et d'un autre côté, on aura le POWN. Mais ça reste des mouvements extrêmement minoritaires. Enfin, la population reste attentiste. La population polonaise, dans son ensemble, reste attentiste. Comme la population française. Et cet engagement dans la résistance a été également contrebalancé par des engagements dans la collaboration. Il y a un mouvement qui va se créer en 1942, qui est le mouvement des Volksdeutschen, donc les Polonais de langue allemande qui vont collaborer avec l'armée d'occupation. Il y en aura pratiquement autant de collaborateurs que de résistants.
Est-ce que Yalta, qui permet aux grandes puissances de se partager le monde, déracine davantage les Polonais en France de leur lien avec le pays natal?
La Pologne s'engage dans la voie du socialisme, au moins elle le prétend, à la libération. Donc évidemment, une majeure partie de la communauté polonaise qui est imprégnée des valeurs catholiques, anticommunistes, obsessionnellement anticommunistes, va se détourner de la Pologne réelle. Hein, la Pologne qui regagne grâce à Yalta, qui, les frontières polonaises vont être déplacées. La Pologne occupée, parce qu'on entend souvent dire que la Pologne est une nation martyre, tout, les pleurnicheries habituelles sur la Pologne, soit occupée par l'Allemagne ou par son voisin russe. Mais en 1921, suite à la guerre polono-bolchevique, la Pologne occupe une partie de l'Ukraine et une partie de la Biélorussie. Ce qui fait qu'en 1939, lorsque les troupes soviétiques entrent dans ce territoire, ils sont accueillis comme des libérateurs. Parce que eux, ces peuples biélorusses et ukrainiens subissaient la loi des grands propriétaires terriens polonais. Donc les frontières sont changées suite à Yalta et Potsdam. Il y a un glissement des frontières sur l'ouest. Donc la Pologne perd ses territoires qu'elle occupait depuis 1921, les territoires biélorusses et ukrainiens qui sont rendus à l'Union soviétique. Par contre, elle gagne des territoires en Silésie, notamment du côté de Wałbrzych, Wrocław, la Basse-Silésie. Et c'est des territoires très charbonniers, enfin industriels. Et c'est ces territoires dont vont être chassés les Allemands. Il ne faut pas oublier que non plus la Pologne devient un État ethniquement homogène. Alors qu'avant la guerre, il y avait un tiers de la population qui était non ethniquement polonaise. Et donc les Allemands sont chassés et le gouvernement polonais va faire appel, non seulement pour la reconstruction du pays que j'évoquais tout à l'heure, mais pour repoloniser ces terres dont les Allemands sont chassés à la main-d'œuvre ouvrière exilée en France. Donc une partie va faire le choix de ce retour en Pologne après la guerre.
Voilà, et j'ai entendu dire qu'une fois rentré en Pologne, il disait simplement aux autres, quand ils pouvaient communiquer, si vous pouvez rester en France, restez en France, ne revenez pas. C'était pas facile.
Oui, enfin ça, on entend dire ça dans les milieux catholiques, conservateurs et il y a eu des liens très forts entre la fédération CGT du sous-sol, la maison syndicale de Lens, avec des gens comme Émile Vagenet qui ont fait le contact avec la Pologne. Moi, j'ai encore des contacts. Je travaille sur cette question des retours en Pologne avec des gens qui ne regrettent pas du tout leur retour en Pologne. Ils ont eu la possibilité d'ascension sociale qu'ils n'auraient pas eu ici en France. Ils seraient morts ici en France à l'âge de 40 ou 45 ans de silicose, brûlés, leurs poumons brûlés. Alors que là, ils ont eu des possibilités de faire une espèce de montée dans l'échelon social, entre guillemets. Donc certains mineurs sont devenus ingénieurs. On a par exemple des mineurs qui sont devenus préfets de région, etc. On a Édouard Guirec, dont peut-être on n'a pas encore évoqué, mais qui était un mineur de l'Euphorée, expulsé en 1934. Il allait devenir le chef de l'État polonais. Je dis, là-bas en Pologne populaire, vous avez les mineurs de charbon à la tête de l'État, ici on a des banquiers. Bon.
On va parler de l'association, justement, les Amis d'Émile Guirec, c'est quoi cette association?
Les Amis d'Édouard Guirec a été créé il y a une dizaine d'années. En 2007, le Conseil général du Pas-de-Calais avait fait de 2007 l'année de la Pologne. Mmh. Et à l'heure des bilans, on s'était rendu compte qu'ils avaient privilégié, à travers tout un tas d'initiatives, si sympathiques puissent-elles être, la dimension sociale et culturelle. Le folklore, l'église, on avait privilégié cette dimension musicale, culturelle, etc. Et la dimension sociale, les luttes sociales, la condition du mineur, la silicose, l'exploitation dans les mines, parce qu'ils sont venus pour le pain, ils s'imaginaient la France comme un Eldorado et ils ont été confrontés au bagne de la mine capitaliste. Et ça, on le rappelle jamais. Même peut-être Patrice évoquera tout à l'heure le centenaire aujourd'hui. On n'évoque pas ces questions-là. Donc cette association des Amis d'Édouard Guirec, on l'avait lancée il y a une dizaine d'années pour rappeler le parcours de tous ces militants syndicaux ou politiques, communistes notamment, qui ont payé au prix fort leur engagement pour une meilleure condition de vie et de travail des mineurs, de la classe ouvrière.
Comment parce qu'on nous dit également, finalement, quand on regarde l'histoire qui nous lie à la Pologne, et je vais mettre des gros guillemets à la communauté polonaise, c'est l'image même d'une intégration ou assimilation réussie. Qu'est-ce que vous en pensez quand on entend ça?
C'est quand même assez paradoxal de faire d'une communauté un exemple d'une assimilation réussie, alors qu'on sait qu'en 1920, dès leur arrivée, l'idée, c'était de repartir en Pologne. Et l'Église, qui jouait un rôle très important, a joué ce rôle de cocon, en fait. Il ne s'agissait pas du tout de s'assimiler dans la société française. Donc elle a créé comme ça des cadres, en fait, pour empêcher les liens entre les communautés polonaises et les communautés françaises. Toujours dans l'idée de cette crainte que cette communauté polonaise soit contaminée par les idéaux progressistes en cours en France, et également contaminé par la déchristianisation. La déchristianisation, c'est un phénomène qu'on observe dans le bassin minier ici depuis la fin du 19e siècle. Et donc c'était quand même la crainte, quoi, de, non seulement des houillères, et, mais également des prêtres polonais. Enfin, ils étaient cul et chemise. Hein.
Alors, on nous dit également, ce qui va faciliter les choses, finalement, ce sont des histoires d'amour, des mariages mixtes. C'était aussi simple que ça ?
Bah, ce qui va favoriser les choses... Bah, déjà, qui s'est intégré dans la société française ? Ce sont les Polonais qui sont restés. Mmh. Bon, entre 1931 et 1936, un Polonais sur cinq est renvoyé en Pologne. Il faudrait leur poser la question, à eux. Dans les années 30, hein, on est dans le cadre de la récession, de la crise économique du capitalisme. Donc là, les houillères n'ont plus besoin d'eux. On avait besoin des Polonais, on les fait venir, on n'a plus besoin d'eux, on les renvoie au pays. Avec l'insistance de l'État français, hein, qui cède un peu aux sirènes xénophobes de sa population. Donc 1 sur 5 quand même, c'est énorme, se voit dans l'obligation de repartir au pays. Ensuite, on aura tous les rapatriés, 1 sur 5 encore, 62 000 Polonais qui quittent la France, les questions qu'on évoquait tout à l'heure, hein, de 46 à 48. Donc c'est des gens à qui il faudrait demander aussi est-ce qu'ils se sont bien intégrés. Ils ne sont pas bien intégrés puisqu'ils sont partis. Ils ne voulaient pas rester en France. Donc, ensuite, il y a tous les militants syndicaux, les militants communistes qui ont été expulsés. Est-ce qu'ils se sont bien intégrés dans la société française ? Donc quand on parle d'intégration, on parle de ceux qui sont restés. Voilà. Mais évidemment, si on occulte, c'est comme si vous... Je cite parfois cet exemple. Vous êtes dans un championnat de France. Vous tenez le Racing Club de Lens. Et à la fin de la saison, Lens termine 10e et ben, vous tenez compte que des victoires accumulées par le club. Alors évidemment, il va terminer 1er ou 2e sur le podium et il va monter en Ligue des Champions. Mais c'est pas ça. L'histoire est quand même toute en nuance et tout en équilibre. C'est pour ça que c'est un mythe, l'idée d'une assimilation facile des Polonais dans la société française. Et il est repris aujourd'hui par l'extrême droite qui instrumentalise. Il suffit d'aller au Salon des Nains Beaumont chaque année, qui est un des plus courus, et d'écouter le discours de Marine Le Pen. C'est les Polonais. Pourquoi ? Ce que les Polonais pouvaient facilement faire, les autres, elle ne dit pas qui, mais on se doute qu'elle parle des Maghrébins, les autres ne sont pas capables de le faire. Alors que quand vous lisez les rapports à l'époque, les rapports de police, les rapports de préfet ou de sous-préfet, on disait que les Polonais étaient inassimilables, étaient incapables de s'assimiler dans la société française. Mais qui va s'assimiler ? C'est une partie des Polonais. Donc sinon, on fait comme l'historien Gérard Noiriel le disait, on écrit l'histoire des vainqueurs au détriment des vaincus, l'histoire de ceux qui sont restés au détriment de ceux qui sont partis. Et c'était aussi l'objectif de l'Association des Amis d'Édouard Guirec que de rappeler le parcours des gens qui ont été expulsés ou renvoyés en Pologne.
Parce que la mémoire est devenue sélective.
Ben, on retient parfois les bons moments, on retient les bons moments, et ceux qui pourraient contredire ce discours ne sont plus là pour parler, ils sont en Pologne, ils sont morts, donc comment on fait ? Donc il faut qu'il y ait des porteurs de mémoire, des historiens qui rétablissent quelque peu la vérité, entre guillemets.
Votre travail d'historien, il porte aussi sur ce qui va se passer dans les années 80, Solidarnosc, Danx, Waleza, comment s'est vécu en France ça ?
C'est vécu avec joie par l'aile droite de la communauté polonaise. Les catholiques, ceux qui sont proches du Vatican. Alors c'est quand même assez paradoxal qu'un État comme Jean-Paul II, qui est à la tête d'un État totalitaire, qu'est l'État du Vatican, quelque part, donne des leçons de démocratie à la terre entière et à la Pologne à l'époque. Il faut savoir qu'après la restauration quand même du capitalisme en Pologne, il y a 2 à 2,5 millions de Polonais qui ont dû quitter le pays. Dans le cadre un peu de la thérapie de choc, hein, l'école de Chicago, etc. Ils avaient promis un plus de socialisme, un idéal autogestionnaire, et finalement, ils ont vendu leur pays, ces gens-là, ces Waleza et ces Solidarnosc, ils ont vendu leur pays aux appétits capitalistes. Et aujourd'hui, si l'extrême droite renaît en Pologne, c'est aussi à cause de ça.
C'est important de rappeler, encore une fois, cette vision, ce que l'on peut retenir, l'enseignement de l'histoire, en quelque sorte. C'est ce que vous cherchez à faire également ?
Ben oui, on essaie un peu d'apporter de contradictions dans la, ce qu'on appelle la pensée unique, en fait. Hein ? La pensée unique, elle s'applique également à cette histoire de l'immigration polonaise. Donc on essaye à travers, en rappelant le parcours de militants ouvriers qui ont été exemplaires. Ils ne se battaient pas pour être, pour s'en mettre plein les poches, ils se battaient pour l'amélioration de la condition ouvrière, la condition de leurs semblables, quoi. C'est quand même, moralement, c'est quand même plus respectable que...
Ne pas... Et je vais être avec des gros sabots, quoi. Mais limiter l'image de la Pologne à la polka et à la charcuterie.
C'est agréable de faire la fête, mais ça c'est les côtés joyeux, mais il y a les côtés sombres quoi qu'il faut quand même il faut rappeler pour en tenir les leçons aujourd'hui quoi. Et d'ailleurs on voit parfois certains quand je fais des interviews, il y a des Polonais de la deuxième ou troisième génération qui sont xénophobes et racistes envers les notamment les Maghrébins qui sont arrivés après. Donc certains se posent quand même des questions quoi. C'est une ignorance de l'histoire ou c'est peut-être le fait d'avoir l'impression d'être plus on est plus royaliste que le roi en fait parce que on a eu du mal à s'intégrer. Donc une fois qu'on est intégré, on stigmatise ceux qui arrivent derrière. Et les Polonais en modèle d'intégration, vu dans les années 30, c'était pas du tout le cas. Et à l'époque, on stigmatisait. Il y avait plein d'histoires sur les bandits polonais, les voleurs polonais, les buveurs polonais, les bagarreurs polonais. Et là, on mettait en avant les Belges. Alors qu'on sait comment les Belges ont été traités quand ils sont arrivés à la fin du 19e siècle, quoi.
Pourquoi vous décidez aux éditions Nord Avril de vous lancer vous aussi dans alors je sais pas comment je vais dire pas célébration pas commémoration enfin dans l'histoire de ce lien qui est tissé entre la région et la Pologne. Il est plus avec nous.
C'est à moi que la question. Je pensais que c'était adressé.
Non, je parlais des éditions.
À Jacques. Ah oui.
Patrice Dufossé. Alors, excusez-moi, mais c'est l'heure de la sieste en même temps. Excusez-moi. Je ne veux pas connaître votre vie nocturne. Mais qu'est-ce qui fait que vous dites oui dans une maison d'édition où l'on se consacre à l'histoire et à notre patrimoine régional, il faut que l'on réalise des ouvrages sur cette question.
C'est la passion pour l'histoire, hein, l'histoire de la région. Je l'ai dit tout à l'heure, les identités de la région. La Polonia en fait partie. La Polonia, ça fait partie de l'identité de la région.
Idéalisée, parfois aussi, c'est ce qu'on disait.
Oui, idéalisée, mais c'est pas quand on idéalise, c'est jamais bien bon. Hein, à un moment donné, il faut quand même avoir un esprit critique, quoi. Donc quand je rencontre des historiens, des journalistes, on discute, on échange, on confronte des idées. Et là, ça devient intéressant. Comme disait Jacques, la pensée unique, c'est jamais bien, quoi. Là. Donc bien sûr, la Polonia, ça me parle parce que voilà, j'ai des origines polonaises aussi par ma maman, quoi. Hein. J'ai baigné dans cette ambiance polonaise puisque mon grand-père était mineur. À la fosse des lois, quoi, hein, pas loin d'ici, qui est le centre historique Minéloard. Il est arrivé en 30 à Somin, célibataire, à 18 ans. Il est venu du fin fond de la Pologne, là, de Blajowa, près de Dzieszów. Donc j'ai connu mes grands-parents, comme toute famille, quoi, qui tenaient un commerce. Donc j'ai baigné dans cette ambiance-là. Et puis petit à petit, face à la fermeture des puits, la catastrophe, j'ai voulu faire perdurer cette mémoire à travers des ouvrages, à travers l'histoire, justement, puisqu'on passe sur l'histoire maintenant. On est dans l'histoire, on n'est plus dans... Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre tout ça, ces gens qui ont vécu, ces gens qui sont maintenant sur des historiens. Et puis, comme disait Jacques tout à l'heure, quand on fait des salons... la charcuterie et puis les costumes polonais, c'est bien. Ce sont des marqueurs, c'est formidable, c'est le folklore, hein, après tout. Mais là où ça devient moins bien, c'est que quand on a des discours politiques, hein, comme on vient citer la ville tout à l'heure, où on entend dire face à des problèmes d'intégration. Certains feraient mieux de s'inspirer du modèle d'intégration qu'a été la Polonia, quoi, alors qu'on sait pertinemment que c'est faux. Moi-même, chez les archives, j'ai consulté des tas de documents. Donc là, je pense qu'il faut un petit peu réagir, quoi. Il faut réagir, je pense.
Dans les ouvrages que vous consacrez, donc, on trouve quoi ?
Dans les ouvrages, on trouve... ça peut aller d'un ouvrage sur l'histoire d'une association polonaise... avec par exemple Polonia Douai, j'ai publié un livre sur l'association Polonia Douai, formidablement bien fait, et ça va aussi sur des témoignages d'anciens. Alors au début, quand j'ai créé la maison d'édition, c'était des témoignages de mineurs. Maintenant, malheureusement, le temps a passé, avec Jean Zatan qui était mineur aussi à Arne, donc il a raconté sa vie et d'autres. Et puis maintenant on a plutôt des ouvrages d'histoire avec des personnes qui sont de la deuxième, troisième génération, voire quatrième, enfin troisième génération, c'est sûr, et qui racontent ce qu'elles ont vécu jeunes. Et là, la transmission se fait, elle se fait à travers le souvenir, quoi. À travers le souvenir, avec des marqueurs comme le folklore. Hein. Le folklore, ce sont des marqueurs, les traditions familiales, tout ça. Quand je fais des salons du livre, on discute beaucoup, hein, à la table, des traditions familiales. Et voilà.
Du reste, il y a un ouvrage auquel a contribué le maire d'Oby, il me semble, non ? Je me trompe
Il a contribué par son action,
oui.
À travers le baptême d'une rue Édouard Guirec. Voilà, parce que, bon, depuis 2015, l'extrême droite est de nouveau de retour en Pologne. Et ils s'imaginent expurger de l'espace public toute référence au mouvement ouvrier progressiste. Alors ça va de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et Édouard Guirec, qui avait un rond-point à Sosnowiec, où il est né, le gouvernement a décidé de le débaptiser. Contre l'avis de la population, c'est quand même assez... Alors c'est des gens qui se réclament de la démocratie et du pluralisme, et lorsque le maire, pourtant de droite, de Sosnowiec, qui était aussi opposé à cette mesure, a consulté la population, 99% de la population s'est prononcée pour le maintien du rond-point Guirec. Mais ces grands démocrates ont passé outre. Donc un peu comme un pied de nez aux mauvaises pratiques, aux pratiques révisionnistes du gouvernement polonais, le maire d'Oby, Freddy Kaczmarek, a décidé de baptiser une rue Guirec. C'était en juillet 2018.
C'est du négationnisme.
Oui, tout à fait. C'est du négationnisme, une réécriture de l'histoire. On avait vu apparaître des rues Jean-Paul II, Général Anders, qui était un espèce de conservateur anticommuniste notoire dans les années 90. Et même, comment il s'appelle connu sur son nom de scène, Jean-Paul II, Karol Wojtyła. Donc il y a eu des avenues Jean-Paul II en Pologne. Mais c'était pas systématique. Et là, c'est le côté systématique un peu qui gêne. Donc c'est un peu des procès en sorcellerie contre les militants. Alors ils s'attaquent même à des militants juifs. Ils se sont attaqués à une famille de Salomine, les Burchikowski. Le père avait fait la grève de mai-juin 1941. Il a été déporté. Il est mort à Sachsenhausen. Il y a trois fils qui sont morts, assassinés par la Gestapo, dont deux fusillés à la citadelle d'Arras et un suite à un combat de rue. Ils ont décidé de débaptiser. Là, il y a une mobilisation, justement, des rapatriés qui ont aujourd'hui 80, 85, 90 ans et qui se sont battus pour que cette rue Burchikowski soit maintenue à Waubger, qui est un peu la capitale industrielle de la Basse-Silésie. Et finalement, ils ont obtenu gain de cause. Mais il y a eu une réaction. Mais ils s'attaquent à tout le monde, à des penseurs, à Karl Marx, Lénine, évidemment. Staline, faut pas en parler. Mais à des penseurs, à des militants socialistes de la fin du 19e siècle, et même à des résistants juifs qui ont combattu le nazisme dans les ghettos juifs. Mais ils avaient le tort d'être communistes. Donc, on débaptise. Enfin, donc il y a quand même ici une réaction donc, du maire remarquable, du maire d'Oby en 2018, qui a été suivi des faits, puisque le maire de Grenay, cette année, a décidé de baptiser également un rond-point Guirec. Donc toute l'association des amis d'Edouard Guirec, on appelle à multiplication de ce type d'initiative.
Voilà, il y avait une grande banderole, je pense, qui a été mise pendant un moment le long de la rocade. Hein,
oui, tout à fait.
Pour sensibiliser. Est-ce que vous avez eu des retours ? Est-ce que finalement les gens se sont questionnés ? Parce que cette histoire, on la connaît pas vraiment, quoi.
Non, et c'est tout le paradoxe, en fait. C'est pour ça qu'on remercie parfois. Enfin, c'est le seul moment où je vais remercier l'extrême droite polonaise. C'est qu'en voulant tuer la mémoire d'Edouard Guirec, ils l'ont quelque part régénéré, revivifié. Parce que bon, c'est vrai qu'Edouard Guirec, bon, c'est quand même, à mon avis, avec le footballeur Raymond Kopaszewski, c'est le plus célèbre des Polonais de par le monde, parce qu'il a quand même dirigé l'État polonais. Et donc, sa mémoire, au fil des décennies, s'effacer. Et là, grâce à cette initiative, eh ben, voilà, il revient au goût du jour. Donc on parle aussi du mouvement syndical, de la grève de Leforest. Vous savez, cette fameuse grève de Leforest en août 1934, les mineurs font une grève au fond. D'après certains historiens, ça serait la première grève au fond d'un puits de mine. Ils font une grève au fond le 6 août 1934 pour protester déjà contre les expulsions dont certains des leurs étaient victimes. Au bout de 36 heures, au fond, en butte à l'épuisement, la soif, la faim, et avec des promesses d'impunité. Ils remontent au jour. Et en guise d'impunité, le ministre de l'Intérieur va signer 77 décrets d'expulsion. Ils avaient fait grève simplement grève, un droit reconnu par la Constitution à l'époque, mais par la loi, par la législation. Il n'avait pas pendu un baron des Houillères à un candélabre, il n'avait même pas jeté de peinture sur l'Arc de Triomphe, rien d'illégal. Ils ont été expulsés. Enfin, sur les 77, la plupart ont été expulsés. Certains ont connu expulsés. Ils ont connu les geôles de M. Pilsudski en Pologne, ce dirigeant fasciste, en 1930. Donc, ils quittent la France, ils sont expulsés, ils vont en prison parce que ce sont des militants communistes. Et parmi les expulsés, on a Édouard Guirec.
Que de connaître cette histoire, c'est important, parce que vous craignez finalement qu'elle pourrait se réécrire. On dit l'histoire est un éternel recommencement. Il faut être vigilant, justement, il faut connaître, il faut savoir quelles sont les menaces, ce qui a déjà été... possible hier, même si c'était il y a 90 ans, reste une menace aujourd'hui.
Bah, ça reste une menace pour, ça peut rester. Bon, il y a moins d'immigrés. On n'est plus dans le cadre des concentrations ouvrières, mais la répression de la République. Bah, il ne faut pas oublier non plus que la République, notre République, elle est l'héritière de la Troisième République, qui s'est fondée quand même sur le massacre de la Commune de Paris. Donc c'est quand même une tâche indélébile qui marque cette Constitution. C'est une République bourgeoise, et la répression, elle est constante. Il suffit de voir comment on a traité les Gilets jaunes, ou comment on traite les militants syndicaux, CGT pour la plupart, parce que c'est les plus combattants. En général, comment on traite les militants syndicaux. Donc la répression, voilà, elle est dans l'air du temps capitaliste. Hein. Il faut pas croire. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Bolivie.
Ben justement, ça va me faire le point. On est aujourd'hui ici parce que on parle des 40 ans de la naissance de Radio Quinquin, la radio de la CGT. Vous avez sévi sur les antennes, Patrice Dufossé de...
Oui, il y a longtemps. J'avais 18-20 ans, oui.
Ouais.
Oui, à l'époque, j'ai fait 2-3 mois ici pour animer une émission sur les filières de formation et puis une rubrique offre d'emploi aussi. C'était bien, c'était la bonne ambiance. Voilà, c'était des bons moments.
C'est ces médias, finalement, qui permettent, en toute liberté, de pouvoir... aller creuser, fouiller, comprendre le sens de l'histoire, ça manque aujourd'hui, selon vous? Là, je vais demander aux journalistes peut-être de porter un regard sur le sens de l'information ou même parfois de la communication, parce qu'on est quand même plus dans l'ère de la communication que du journalisme.
Ça manque. Après, c'est des outils qu'il faut s'approprier. Mais c'est vrai que dans l'exercice, moi, je travaille je travaille comme pigiste, mais pour un hebdomadaire du Pas-de-Calais. Donc j'ai fait un article. Je prends un exemple très concret, un article de l'ancien maire de Calonne-Ricoire, André Delcourt, qui a été à l'initiative d'un des premiers jumelages avec une ville de RDA. C'était en 1961-62. Et donc il exprime dans cet article son ressenti, et la personne qui est au-dessus de moi, enfin le secrétaire de rédaction, va ajouter une phrase. Donc il parle, bon, la RDA, c'était quand même, elle assurait l'émancipation de la femme, la démocratisation des universités, etc. Alors je lui souligne André Delcourt, et la personne va rajouter selon une interprétation toute personnelle. Vous voyez où ça va se... Évidemment, tout est interprétation personnel. Je veux dire, il ne le fait pas à chaque article. Voilà, si le gars qui a créé une société de jouets a une vision du monde, on ne dit pas ça. Là, on le dit. Donc il y a un combat idéologique quand même, un combat idéologique à mener à tous les points de vue. Vous parliez de le traité germano-soviétique. Ben, là, il y a du travail aussi. Il y a du travail à faire.
Pour mieux comprendre l'histoire et puis éviter encore une fois. L'association aujourd'hui, elle a reçu suffisamment de réponses positives. Il y a une adhésion des maires à l'appel lancé pour que cette mémoire soit entretenue.
Il y a un retour des maires qui sont toujours fidèles à l'esprit du congrès de Tours et qui ont toujours cet ADN, l'internationalisme au cœur, qui est un peu l'ADN de la section française de l'Internationale communiste à sa naissance en 1920. Certains sont moins... Alors évidemment, on est dans une approche électorale un peu. Alors là, ça devient un peu plus difficile. Donc je ne sais pas si on aura des rues Guirec ou rond-point Guirec d'ici le mois de mars. Mais on a quand même... On n'a pas de Roger, évidemment. On n'a pas de... Enfin, de ces maires progressistes, hein, je veux dire. Je ne parle pas des autres. Les autres,
oui. Ne les avez pas contactés, de toute façon.
Si, on les contacte, mais il n'y a pas de retour. Il faut savoir, par exemple, qu'ici à Oby, l'ambassadeur avait été invité, l'ambassadeur de Pologne. Bon, comme diplomate, au moins, il aurait pu s'excuser. Bon, non, ils ne font pas. Donc, il y a aussi une forme de mépris qui est affichée par ces autorités polonaises. C'est pour ça que le 9 décembre, hein, je crois, le Conseil général...
Régional, pardon.
Oui, a décidé de faire un grand barnum là, pour l'amitié. Alors, ils appellent 100 ans d'amitié franco-polonaise. Hein. Je voudrais quand même rappeler qu'en 1949, en pleine guerre froide, un ancien mineur de charbon qui était vice-consul de Pologne à Lille, Joseph Czerbinski de Fouquier-les-Lens, a été arrêté et torturé par la police française, accusé d'espionnage. C'était en 1949, en décembre 1949. Ensuite, il va être expulsé vers la Pologne. Donc, quand on parle d'amitié franco-polonaise, il faudrait quand même mettre quelques bémols à cette expression. Donc, c'est placé sous le patronage de l'ambassadeur. Donc, il y a des organisations qui vont sans doute appeler à un rassemblement le 9 décembre à 18h30 devant le conseil régional à Lille pour accueillir comme il se doit monsieur l'ambassadeur de Pologne en France.
On peut vous lire. Vous avez publié.
On a publié grâce à mon camarade Patrice Dufossé. Pour le 70e anniversaire des rapatriements, on a réédité le récit de Jacques Estagé, qui était très connu ici, et qui avait écrit pour Liberté. Il avait accompagné un convoi de rapatriés, c'est intéressant, c'est vraiment du journalisme de terrain, de Douai à Vaubjer en 1948. Il en avait fait le récit dans Liberté, en feuilleton. Ça a été repris par l'association France-Pologne, et pour le 70e anniversaire, Patrice a accepté de rééditer ce récit. Et moi, j'ai un peu contextualisé, parce que 70 ans après, évidemment, il fallait rappeler un peu les faits, quoi.
Les prochains rendez-vous où on pourra vous croiser, il y a des salons du livre programmés?
Alors, bien sûr, je participe à des salons, on m'en disait tout à l'heure, où on voit les costumes, etc.
Oui.
Le salon de folklore. Mais non, on essaie aussi de provoquer des événements culturels. Avec les livres, justement. C'est pour ça que je fais des livres, parce que c'est, je crois, à la magie des livres. C'est-à-dire, avec les livres, on peut faire des tas de choses. On peut faire se rencontrer les gens, on peut créer du débat, et c'est ce qu'on fait aussi. Il y a une exposition qui tourne, par exemple, avec des dessins de Johanna Swiatek, qui illustre actuellement un livre bilingue.
Ouais.
Donc ça tourne dans la région... On a un livre aussi qui va paraître l'année prochaine avec Monica Siamo, qui est professeure de langue. Alors ça va s'appeler « Les 100 objets de la présence polonaise dans le Nord », pour 100 ans de présence. Hein. Donc c'est un travail sur les objets, la symbolique des objets. Et donc j'ai trouvé que c'est un très très gros travail de Monica. Et donc on va publier ce livre-là. Et puis Monica aussi animera des causeries aussi autour de son travail. Et voilà, donc le folklore, il en faut, mais bon, pour moi, c'est pas l'objectif, quoi. C'est pas le but.
Une toute dernière question pour vous, Jacques. Est-ce que... l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, ça a changé les choses ou pas du tout? Est-ce que la Pologne européenne, ça simplifie?
La Pologne européenne, on a vu ce que ça a donné au niveau de la population, hein, qui aujourd'hui adhère aux thèses de l'extrême droite. Donc c'est un rejet aussi de la politique libérale, de cette Europe qui est une véritable prison des peuples, hein, cette Europe-là. C'est l'Europe du capitalisme, hein, c'est pas autre chose. C'est même pas l'Europe de la paix, parce qu'elle fait la guerre dès que ses intérêts sont menacés. Donc il y a quand même il y a eu un rejet. Et si l'extrême droite est au pouvoir aujourd'hui en Pologne, c'est par rejet de l'Union européenne.
Ouais.
Bon,
quand on pense que des référendums ne sont pas pris en compte ici en France, on peut également se questionner sur les impacts que ça a aujourd'hui.
Tout à fait, on est quand même dans... Il ne faut jamais oublier la nature de classe de l'État dans lequel on vit. On vit dans un État bourgeois avec une élite bourgeoise qui impose sa dictature au plus grand nombre. Ça, il faut, c'est des fondamentaux. C'est ce qu'on disait il y a 70 ans. Là, on a un peu, au niveau des mots, on les a un peu aseptisés, mais il faut appeler un chat et une dictature. Et on est dans un système de dictature. Voilà, vous voyez simplement le sort réservé aux gilets jaunes. Enfin, c'est inimaginable, quoi.
Merci d'être venu ici. Pour contacter l'association, on s'y prend comment ? Vous avez besoin de quoi ? D'un support, d'un engouement, d'être accompagné par la population, par les militants ?
Ben, on a besoin, oui, d'un soutien, que ce soit un soutien logistique au niveau peut-être de l'édition, etc. Un soutien aussi dans l'accueil pour les causeries qu'on peut amener à être à faire. Quoi. On cherche justement la confrontation, enfin la confrontation dans le sens de débat, pour un peu briser un peu cette pensée unique. Par exemple, il y a une association qui s'appelle l'Institut Saint-Casimir. Alors Saint-Casimir, c'était près de Béthune, c'était des Polonais qui étaient hébergés là. Et on a deux discours tout à fait différents sur le traité germano-soviétique. Et donc, on aimerait bien débattre de ces questions-là, avec ces gens-là, avec cette opposition-là, avec ces gens de droite. Mais eux, ils ne le veulent pas, parce que débattre avec nous, c'est accorder du crédit à ce qu'on amène. Et donc, ils n'osent pas.
Le débat est difficile, hein.
C'est plus facile de rester dans ses convictions.
J'ai une position, j'ai du recul par rapport à ça, parce que je publie des ouvrages sur la Polonia avec un grand recul. Et je m'aperçois que chacun, c'est difficile de trouver des endroits où on peut justement se retrouver pour discuter, échanger, etc. Et pour tout ce que vient de dire Jacques, quoi. Enfin, chacun est dans... Et bon, c'est souvent j'ignore l'autre, on s'évite, etc. Et puis ça peut durer longtemps, tout ça. Hein, ça peut durer longtemps. Hein. Alors moi qui suis au milieu, j'entends un son de cloche d'un côté, un son de cloche de l'autre. Je vais pas... Mon devoir aussi n'est pas de transmettre ce que dit l'un à l'autre. Enfin bon, j'essaie de tenir une position un peu neutre quand même. Hein, parce que voilà. Mais bon, quelquefois, il faut quand même... Il faut quand même bouger quand on entend des discours du genre des nains, quoi. Je peux pas laisser passer.
Plus historien ou plus journaliste aujourd'hui, Jacques ? Est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux ?
Ben quand un journaliste s'intéresse à l'histoire, on fait pas la différence. Mais je vois beaucoup de journalistes que je peux côtoyer, qui travaillent dans les... C'est ça qu'on a parfois des soucis à diffuser les idées, c'est qu'ils sont complètement ignorants de l'histoire. Je vois des... Quand on parle que la RDA a été annexée par son voisin de l'Ouest, certains sont choqués par ce terme d'annexion. Ils couvrent des manifestations, annexion, ils remettent en question. Donc, voilà, c'est les pensifs qui sont relayés comme ça par manque de culture. Et en plus, ils n'ont pas d'enracinement ouvrier. En général, c'est très rare. On n'a pas beaucoup de journalistes qui ont baigné dans le milieu ouvrier. Enfin, très peu, proportionnellement. Donc, ils n'ont pas non plus l'expérience des luttes. Ils n'ont pas la confrontation de classe, ils connaissent pas. Donc, ça se sent dans leur façon dont ils appréhendent le monde et ça se sent dans leur écriture. Alors bon, parfois on a besoin d'eux, évidemment. La presse bourgeoise, on en a besoin pour qu'elle relaie. Je pense à La Voix du Nord, où c'est tous ces titres, en fait. La plupart, à part Liberté, c'est tous des journaux qu'on qualifierait de presse, que nos ancêtres auraient qualifié de presse bourgeoise. Mais on a besoin d'eux. Donc parfois, on a envie de monter au créneau et un peu de rentrer dedans, entre guillemets. Mais bon, parfois, on le fait. Mais après, on est puni, puisqu'on est... On est blacklisté, on est censuré. Ça arrive, la censure, sur ces sujets-là, c'est très très fréquent. Hein. C'est très très fréquent. La presse participe à cette...
Parce que politiquement incorrect, parce que dérangeant, parce que c'est pas dans le mainstream de l'information
Oui, tout à fait. Et s'ils prennent le risque de relayer cette voie-là, cette info-là, c'est eux qui risquent d'être... Moi, je l'ai vécu. J'ai été licencié de plusieurs journaux pour des prises de position rédactionnelles. Donc, bon, on m'avait dit une fois dans un hebdomadaire pour lequel je travaillais de faire un papier sur le 8 mai. Alors, 8 mai, ça faisait un peu qu'on appelle les ritournelles sur la libération de la France. Et donc, sur le 8 mai, j'ai fait une page sur le massacre de Sétif. Évidemment, c'est pas le rédacteur en chef, 45 000 morts ou 50 000 morts en Algérie. Pourtant, des gens qui déployaient le drapeau français, ça s'est pas rentré dans les corps. Donc, 8 jours après, j'étais viré. Et finalement, on a un problème avec la presse. Elle participe à cette dictature diffuse hein, de la société dans laquelle on vit.
Voilà. Tiens, je vais saluer un copain journaliste qui lui avait fait une manchette qui était aujourd'hui. Grande journée de lutte contre la pauvreté et en dessous, tout le monde s'en fout. Et c'était en manchette, en couverture, et quand on cherchait dans le journal, il n'y avait absolument rien. Voilà. Alors ils s'attendaient quand même à ce qu'il y ait des réactions, que les gens écrivent au journal, envoient des mails, téléphones, rien, rien. Pour faire la semaine d'après, l'article, effectivement, tout le monde s'en fout. Ça n'a pas plu non plus, ça. Voilà. Donc, mais ça fait partie également du rôle. En tout cas, merci d'être venu présenter votre association et puis nous remettre au point, parce que ça fait du bien également de temps en temps de ne pas être pétri dans ses certitudes ou dans ce que l'on entend. C'est ce qui compte dans une radio comme l'était Radio Quinquin, où on peut se faire bousculer. Et puis après, si... vous voulez davantage d'informations, à vous d'aller la chercher, à vous de continuer à fouiller, parce que le journaliste, il est là également pour transmettre, mais il faut également que le citoyen fasse une part du travail.
C'est notre humble ambition, en fait, c'est d'ouvrir un peu ouvrir les perspectives. Si on réussit même un minimum, on est satisfait.